Bien, nous reprenons, si vous voulez bien, avec Antoine Pro, que j'ai invité pour nous parler de l'éducation nationale, de l'école, de l'université. Et je suis très heureux qu'il soit parmi nous, parce que j'ai beaucoup lu ses travaux depuis très longtemps. Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises, mais sans jamais nous rencontrer depuis de longues années. Et donc, pour moi, c'est l'occasion de l'écouter et de le connaître mieux. Il est donc un des grands historiens de l'éducation au XXe siècle. J'ai fait un cours au début de ces leçons, j'ai fait un cours sur l'université qui était indispensable en raison des transformations démographiques et sociologiques, et notamment de l'apparition d'un nouveau public pour la culture. Et donc j'ai parlé, je crois que c'était le deuxième ou le troisième cours, de l'université déjà, et notamment en m'inspirant de ses travaux, de ses livres, hein, du livre sur l'enseignement en France 1800-1967, qui date de 1968, mais qui a été souvent revu et souvent réédité, et puis de nombreux travaux depuis sur l'histoire de l'enseignement. C'est un sujet difficile, c'est un sujet compliqué que cette histoire de l'enseignement en France, et je pense qu'il n'y a pas de meilleur connaisseur qu'Antoine Pro. Alors, quand je lui avais demandé de venir nous parler, il m'avait dit qu'il en profiterait pour dépouiller les archives de Christian Fouché, ministre de l'Éducation nationale de cette année 1965-1966, auteur de la réforme dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, et qui sont maintenant, ces archives, accessibles aux archives nationales. Alors, je ne sais pas s'il va nous en parler, mais en tout cas, votre titre est « Le monde de l'éducation nationale en 1966 ». Merci.
Oui, c'est à moi de vous remercier de me fournir cette occasion de faire votre connaissance et de réfléchir à la particularité de l'année 1966. Je commencerai par une rapide présentation, fidèle en cela aux enseignements à la fois de Seignobos et de Marc Bloch, parce que je vivais déjà en 1966. J'étais assistant à la Sorbonne, j'étais le secrétaire national pour les questions pédagogiques du syndicat général de l'éducation nationale, et je commençais à écrire, à la demande de René Raymond, qui est mon maître, cette histoire de l'enseignement dont vous avez parlé tout à l'heure et qui finalement pour moi représentait un tournant considérable, puisque sans cette suggestion de mon maître, je n'aurais probablement jamais fait d'histoire de l'enseignement, mais ça me paraissait intéressant et je m'y suis mis. Je vous dis tout ça parce que l'objectivité, c'est une posture, c'est un effort, ça n'est pas acquis d'avance, et la seule façon d'essayer de tendre vers l'objectivité pour un historien, c'est le travail, et c'est le travail sur les sources. Et là, je m'appuie sur trois grandes séries de sources. D'abord, ce qui se passe à l'Élysée autour du général de Gaulle est connu par le témoignage de son conseiller Jacques Narbonne, qui, dans un livre déjà ancien, a publié de nombreux comptes rendus de réunions interministérielles à l'Élysée et ses notes les plus importantes au général avec les réflexions du général. Donc, de ce côté-là, on est en quelque sorte paré. En ce qui concerne Matignon et le Premier ministre Georges Pompidou, les archives de son conseiller Domergue, Henri Domergue, ont été versées. Il y a une quinzaine de cartons que j'ai dépouillés. Et il me manquait le troisième pôle, c'est-à-dire la rue de Grenelle, que j'ai donc dépouillé, et j'ai été déçu parce que je n'ai pas trouvé de notes, de scoops, de traces. J'ai trouvé des coupures de presse, ce qui est du temps gagné, parce que si les services du ministère ont dépouillé la presse à l'intention du ministre, vous pouvez l'utiliser éventuellement, ça vous évite d'aller à la Bibliothèque nationale feuilleter ses papiers. Donc, voilà à partir de quoi j'essaye de vous décrire ce monde qui est un monde en pleine évolution, à la fois en pleine réforme, et ça c'est le côté de la politique, mais aussi en plein mouvement, et ça c'est plutôt le côté, si l'on peut dire, de la société civile. Et on est en quelque sorte au milieu du gué. Bertrand Giraudelin, dans Le Monde du 25 février, dit ceci à propos de l'annonce par Fouché de sa réforme. Il faut en tout cas féliciter M. Fouché de n'avoir pas voulu se contenter de réformes de détail, remises en cause presque chaque année par lui et ses prédécesseurs, en présentant une sorte de nouvelle constitution de l'enseignement. Une sorte de nouvelle constitution de l'enseignement. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Nous sommes au milieu d'une transformation majeure de la morphologie, ou si vous préférez, de l'organisation du système scolaire. On est en train de passer du système Jules Ferry, révisé en 1902, par la grande réforme de 1902 dont on n'a pas assez fait l'histoire, au système que nous connaissons actuellement pour l'essentiel. Donc on est, si j'ose dire, sur une ligne de fait entre deux siècles, entre le 19e, qui s'est prolongé très avant, et puis le 21e, qui est déjà en train de commencer. Et ceci se voit tout de suite. Alors vous n'allez rien voir, parce que c'est écrit trop petit, j'en ai peur. J'ai choisi de vous donner les statistiques officielles. J'aurais aimé vous les distribuer. C'est très clair, vous avez à gauche le système scolaire tel qu'il est lu avec la grille d'analyse ancienne. Et à droite, le même, au même moment, lu à travers la nouvelle grille. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ben, je vais vous le lire, c'est plus simple. Vous avez école maternelle et jardin d'enfants, classe enfantine, section enfantine d'un côté. Et de l'autre, vous avez enseignement préscolaire. C'est-à-dire que le préscolaire est en train de se détacher de l'école primaire. Le grand essor de la maternelle a commencé en 1959, mais la préscolarisation se faisait aussi dans des classes enfantines d'école primaire. C'est d'ailleurs pourquoi dans les statistiques du 19e siècle, on vous met toujours les enfants de moins de 6 ans dans les écoles primaires, parce qu'on accueille dans des classes enfantines les petits-enfants qui ont besoin d'être gardés. Et à partir de 1959, ces classes enfantines se transforment en écoles maternelles. Et l'école maternelle commence une croissance qui va l'amener au stade où elle est actuellement, c'est-à-dire 100% de scolarisation à 3 ans, bien que ça ne soit pas obligatoire, non pas parce que la mise au travail des femmes a entraîné des besoins de garde auxquels on aurait fait face par la création d'une capacité d'accueil en école maternelle, mais parce qu'un nouveau modèle éducatif est en train de se diffuser. Il se diffuse à partir des populations urbaines et des catégories sociales supérieures, et dans ce modèle éducatif, l'école maternelle est la bonne image, le modèle, le paradigme de la bonne façon d'éduquer ses enfants. Et c'est lié aussi à un changement complet de la puériculture. Je vous rappelle le livre, le best-seller, avec lequel je pense que dans cette salle, un certain nombre de parents ont élevé leurs enfants, Laurence Pernoud, J'élève mon enfant, c'est 1965. Et c'est la découverte de ce que les bébés, où les jeunes enfants n'ont pas seulement besoin de biberons et de langes, c'est d'ailleurs aussi le moment où on abandonne les langes parce qu'on a maintenant des garnitures jetables, bon. Mais ils ont besoin d'affection. Donc vous avez une dissociation des maternelles par rapport aux primaires et une croissance exponentielle. Ensuite, vous avez le premier cycle. Alors, si je regarde mes tableaux statistiques, vous avez à gauche école primaire, classe d'enseignement spécial, ça c'est les classes pour inadaptés qui vont d'ailleurs grossir beaucoup pendant cette période, on a un pronostic d'inadaptation un peu rapide. Collège d'enseignement général, cours complémentaire, collège d'enseignement secondaire. C'est une logique d'établissement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si vous regardez à côté, de l'autre côté, l'autre lecture, c'est, vous avez toujours l'enseignement spécial, enseignement du premier degré, du CP au CM2 et au-delà du CM2. Et puis, enseignement du second degré, premier cycle. D'un côté, une logique d'établissement dans laquelle vous avez des écoles primaires qui ont des classes de fin d'études primaires après, normalement, les 14 ans, l'âge du certificat d'études. Vous avez ce qu'on appelle des collèges d'enseignement général, qui sont en fait, ils ont été rebaptisés en 59, c'est ce qu'on appelait autrefois des cours complémentaires. Dans une école primaire, on prend un instituteur chevronné, on le réunit avec des élèves au-delà du certificat d'études, et ils font une première année équivalente à la sixième, une seconde année équivalente à la cinquième. C'est un système qui va durer, qui dure depuis 1902. À la fin des cours complémentaires qui durent généralement 4 ans, les bons élèves et les instituteurs se battaient pour ça. C'était leur classe préparatoire à eux. Et ils voulaient qu'ils intègrent en seconde ou lycée. Et alors les lycées, vous le voyez très bien dans les rapports des proviseurs, les lycées, les proviseurs se désolent en disant « il y a de bons élèves qui auraient dû entrer en sixième, mais ils ont été pris par les cours complémentaires, mais ce n'est pas trop grave, parce qu'en seconde, les cours complémentaires nous envoient beaucoup de bons élèves. » Et j'ai pu montrer que par ce système paradoxal, parce que ségrégatif, la démocratisation de l'enseignement a effectivement beaucoup progressé jusqu'au milieu des années 66, où le nouveau système de distillation fractionnée qui se met en place va annuler les gains de démocratisation occupés par... C'est des effets pervers qui, dans l'enseignement, sont tout à fait fréquents. Donc, à gauche, dans mon tableau de gauche, la lecture par établissement, vous avez les collèges d'enseignement général, les cours complémentaires, c'est exclusivement le privé à l'époque, parce que dans le public, ils se sont appelés collèges d'enseignement général. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les collèges d'enseignement secondaire, qui ont été inventés en 1963. Et alors, vous avez... qu'est-ce que c'est qu'un collège d'enseignement secondaire par rapport à un collège d'enseignement général ? Alors, la plupart des gens n'y comprennent rien. Donc, je vais essayer de faire que vous y compreniez un peu quelque chose. Et puis, je suis obligé de faire vite, ce qui ne simplifie pas. En 1959, on a fait une réforme, on a créé un cycle d'observation de 2 ans. L'idée est de dire, avant d'orienter les enfants vers le lycée ou vers l'enseignement professionnel ou un enseignement court, il faut quand même voir ce qu'ils valent. Donc, on va créer un cycle d'observation et en fonction de cette observation qui dure en 6e et en 5e, on va décider de leur orientation. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le texte de la réforme de 59 dit que les classes d'observation font partie intégrante des établissements dans lesquels elles sont implantées. Alors, il y a des cycles d'observation dans les cours complémentaires qui sont devenus collèges d'enseignement général, et naturellement, après la cinquième, eh bien, ils continuent sur place. Ils n'ont d'ailleurs pas d'autre possibilité parce qu'il n'y a qu'une classe. Et puis, ceux qui font leur cycle d'orientation, leur cycle d'observation, pardon, dans un lycée, ils continuent dans le lycée. Et donc, on constate qu'il n'y a pas d'orientation. Le choix de l'établissement dans lequel on fait son cycle d'orientation, d'observation, il est définitif. Et en plus, les conseillers généraux, les maires des chefs-lieux de canton et les inspecteurs d'académie poussent à la roue pour que, parce qu'il y a une grande demande, on a prolongé l'enseignement, la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, tout le monde doit faire une scolarité de 4 ans après l'école élémentaire. Et donc, tous les chefs-lieux de canton veulent leur cycle d'observation suivi d'un cycle d'orientation. Et on voit se multiplier ce qu'on appelle des groupes d'observation dispersés qui saupoudrent la France dans des villages de 2000 habitants. Et le ministère dit, c'est pas possible. Si on fait ça, il n'y aura pas d'orientation puisqu'il n'y a pas plusieurs sections. Et donc le ministère prévoit une circulaire de carte scolaire qui va réglementer tout ce désordre et poser le principe d'établissements polyvalents dans lesquels il y a au moins 3 ou 4 sections différentes pour qu'on puisse faire une orientation effective. L'établissement polyvalent de premier cycle suppose qu'on fasse une carte scolaire, c'est-à-dire qu'on dise il faut en gros une centaine d'enfants par niveau, une centaine d'enfants en sixième pour que vous puissiez avoir au moins 3 sections, peut-être 4. Alors 100 en sixième, 100 en cinquième, 100 en quatrième, 100 en troisième, ça fait 400. Combien faut-il d'habitants pour qu'il y ait 400 élèves entre 12 ans et 16 ans ? Eh bien, dans un district rural, il faut au moins 5000 habitants. Donc pas. Voilà la circulaire de carte scolaire, voilà son esprit. C'est une très grande nouveauté dans l'éducation nationale. C'est M. Capel qui est le directeur général de l'organisation des programmes scolaires qui est à la tête de cette réforme. Et quand cette réforme arrive chez M. Pompidou dit « Mais attendez, on ne réformera pas le décret de 59 par une circulaire. » Et il envoie une lettre un peu sèche à son ministre de l'Éducation nationale en lui disant « Ce que vous êtes en train de faire, c'est une question de gouvernement, ça se décide ici. » Et ils vont discuter. Où est le problème ? Le projet de Capel et de son adjoint, M. René Haby, qui signe un rapport en 1962, le rapport d'une commission mise en place par le président ministre M. Sudreau. Première version du rapport, il y a tout un développement sur l'école moyenne. Je vois ça dans les archives, c'est sur papier pelure, mal dactylographié, puis à côté, il y a le même rapport dactylographié avec les annotations du Premier ministre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lisez le rapport dactylographié avec les annotations du Premier ministre. Et très bien, puis rentrez chez vous, vous vous dites, j'ai peut-être travaillé un peu vite. La prochaine fois, je regarderai. Et la fois d'après, je regarde en effet le rapport dactylographié. Oh ! Dans le rapport dactylographié, vous avez tout un développement sur l'école moyenne, l'établissement moyen de premier cycle. Dans la version annotée par le Premier ministre, ça a disparu. Le cabinet du Premier ministre n'a pas voulu de cette réforme. Pourquoi ? Parce que la réforme de Capel, c'était une réforme qui autonomisait le premier cycle. Et au nom de la continuité de l'enseignement secondaire, le Premier ministre s'y est opposé. Le projet Capel, c'était aussi un corps de professeurs de premier cycle distinct des professeurs certifiés et des agrégés du niveau lycée. Pour M. Pompidou, il n'en était pas question à cause de la continuité de l'enseignement secondaire qui, vous le savez, est un enseignement d'imprégnation lente et qui demande à être mis en contact très tôt avec les professeurs agrégés et, à défaut de professeurs agrégés, des professeurs certifiés. Et le système de M. Capel, c'était en sixième enseignement unique, c'est-à-dire sans latin. Donc, pas de sa Suzon. Dans les mémoires de M. Perfitte, vous trouvez une déclaration de M. Fouché qui dit « Je suis violemment ». Mais alors, pas de M. Fouché, de M. Pompidou qui dit « Je suis hostile, je suis violemment, mais alors violemment hostile au tronc commun. » Et M. Capel faisait de vrais collèges. Alors il y a eu une négociation entre l'Élysée et Matignon. Et je ne l'ai pas vu, j'ai même écrit des choses qui sont fausses à ce sujet, parce que, faute de sources, je n'avais pas vu les archives de Matignon, je me fiais à De Gaulle, qui a dit à Capel, « Mais ne vous faites pas de soucis, les décisions seront prises ici. » Et j'ai raconté la réforme de 1963 comme une réforme imposée par De Gaulle à son ministre de l'Éducation nationale et à son Premier ministre. Ben, je suis désolé, c'est faux. Le la réunion qui se tient le 4 avril 63 à l'Élysée pour décider de cette politique entérine en fait un compromis qui a été négocié à Matignon entre Capel et Pompidou, qui sont deux camarades de promotion de la rue d'Ulm, l'un scientifique, l'autre littéraire. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Christian Fouché, est là, mais ne dit rien. C'est le compte-rendu, M. Fouché dit que, M. Pompidou dit que, M. Capel dit que, M. Fouché, M. Pompidou dit que. Enfin, c'est, ouais. Et M. Capel, M. Fouché, on ne le voit pas. Bon. En quoi consiste le compromis ? On va faire des établissements polyvalents. Donc, Capel gagne sur la carte scolaire. Simplement, ces établissements polyvalents, ça ne va pas être des CEG améliorés, ça ne va pas être un corps unique, ça va être la juxtaposition de sections de lycée et de sections de type primaire supérieur, cours complémentaire. Il y a une section classique, une section moderne long, une section moderne court et une section dite de transition pratique. Le classique, tout le monde sait ce que c'est. Le moderne long et le moderne court, ça a les mêmes programmes, ça a les mêmes devoirs, ça a les mêmes exercices. Si vous voulez, c'est comme le coca avec sucre et le coca sans sucre. Et le coca sans sucre, c'est les professeurs qui n'ont pas passé le CAPES, c'est les professeurs type primaire supérieur. Et puis les transitions et terminales pratiques, c'est les anciennes classes de fin d'études qu'on est en train d'essayer de recycler. Et donc le collège unique, il est déjà dans le tuyau, mais il va se faire par juxtaposition de sections hétérogènes. Capel accepte ce compromis parce qu'il pense que par osmose, quelque chose de commun va se déterminer, se définir. Et en réalité, l'osmose ne se fera pas, comme toujours dans l'éducation nationale, comme tout. Ça, c'est une loi sociologique. C'est l'alignement sur les pratiques du plus prestigieux. Et donc, ça va être l'alignement au bout de quelques années, au bout de 20 ans. Tous les professeurs de CEG qui enseignaient à la fois le français, l'histoire, qui assuraient un encadrement et une certaine efficacité, ils sont tous devenus monovalents et ils enseignent l'un l'histoire-géographie, l'autre le français, le troisième l'anglais. Enfin, la polyvalence a disparu et les pratiques et les exercices se sont alignés, avec cette différence que les élèves, évidemment, n'étant pas les mêmes, les professeurs type enseignement long ont été obligés de mettre de l'eau dans leur vin et du langage courant dans la littérature classique. Avec cette réforme de 63, elle crée des collèges d'enseignement secondaire à côté des collèges d'enseignement général. Les collèges d'enseignement secondaire, c'est simple, on y fait du latin. Les collèges d'enseignement général, on n'en fait pas. Mais comme l'éducation nationale est très astucieuse, il faut pas, l'inventivité administrative de l'éducation nationale mérite une réappréciation. L'éducation nationale avait un problème de carrière pour les directeurs de CEG. Si on transformait le CEG en CES, ils étaient obligés de laisser la place à principal de type censeur. Les traditions administratives, moi j'ai regardé des archives d'établissements, les archives des CEG, c'est les registres matricules de l'école primaire. Les registres des collèges d'enseignement secondaire, c'est la formalité administrative et les registres des lycées. Donc, alors on a inventé les CEG en forme pédagogique de CES. Ce qui permettait de maintenir un principal type CEG à la tête d'un établissement qui devenait CES. C'est-à-dire que la fusion était en train de se faire. C'est pourquoi la réforme de M. Haby, en 1975, dite du collège unique, laissez-moi rire, le collège unique, il est en train de se faire depuis ce temps-là, depuis les années 60. Mais en principe, il y a une rupture en fin de troisième. Et alors ici, grande surprise, les hommes qui ont voulu la démocratisation du premier cycle, et ils l'ont vraiment voulu, ils ont fait une ordonnance, 6 janvier 1959, prolongeant la scolarité jusqu'à 16 ans. Et on a des déclarations très nombreuses, aussi bien de Pompidou que de Gaulle, disant tous les élèves, toute la classe d'âge doit aller jusqu'à 16 ans. Donc, tout le monde doit suivre le collège. Les mêmes refusent les conséquences de cette massification du premier cycle. Et ils s'inquiètent et ils s'alarment avec des métaphores hydrauliques abondantes. On ne parle pas encore de tsunami à cette époque, mais si le mot avait été ou la chose avait existé, on en aurait parlé. Il faut éviter d'être submergé par des élèves qui iraient dans les lycées et dans les facultés où ils n'ont rien à faire. C'est, je vous cite De Gaulle. On va dépenser une masse de crédit, dit De Gaulle, pour absorber une masse de crétins qui normalement n'auraient pas eu accès à l'enseignement supérieur. Ça, c'est le 4 mai 61. Ben oui, mais une fois que vous êtes entré dans le premier cycle, qu'est-ce que vous faites ? À un autre moment, il dit « Il n'y a pas à s'attendrir. Tout doit être fait pour ne pas être submergé. » À un autre moment, il dit qu'il faut une hache. Et donc, l'idée fixe de De Gaulle et de son conseiller, c'est qu'il faut sélectionner pour éviter que l'enseignement noble soit submergé et qu'on fabrique des déclassés. Vous voyez, il y a une démocratisation qui refuse de s'assumer. Alors, l'orientation, nous avons en réalité trois pôles très différents. Le pôle de De Gaulle, c'est qu'il faut absolument orienté, et De Gaulle veut une orientation impérative. Il dit, il y a un plan, le plan fixe des pourcentages d'élèves à orienter dans les différentes filières de l'enseignement technique, de l'enseignement général, de l'enseignement professionnel. Eh bien, il faut appliquer ces quotas, et on va charger les orienteurs de répartir les élèves autoritairement. Ce discours est soutenu par une politique de développement économique et industriel qui met en évidence les carences qualitatives de la main-d'œuvre française. Et il y a un livre très important qui est paru en 1965 de M. Vermogauchy, « L'éducation nationale dans le monde de demain », qui donne beaucoup de force à cet argument. Et d'ailleurs, le plan fournit en effet des évaluations chiffrées avec une assurance que les plans suivants tempéreront. Donc, De Gaulle, on oriente autoritairement à partir des prévisions du plan. Pompidou, il faut orienter. Pompidou est pour la sélection et donc aussi pour l'orientation. Mais Pompidou dit dans un déjeuner avec le conseiller de Gaulle, « Je ne serai pas celui qui encarcernera la jeunesse française ». Pour De Gaulle, il faut orienter, mais il y a des examens qui sont faits pour ça. Il suffit que les examens soient sévères et on va sélectionner par des examens. Les professeurs donneront des conseils. De Gaulle se méfie des orienteurs ou des orientateurs, comme il dit, et donc, mais il est pour la sélection. Et puis vous avez Fouché. Fouché qui dit, écoutez, il ne dit rien, justement, s'il disait quelque chose, mais il traîne les pieds. Il traîne les pieds et manifestement, enfin, tel que j'arrive à la reconstituer à peu près, il me semble que la pensée de Fouché est la suivante. Un, c'est une affaire très difficile à faire, où on risque d'avoir beaucoup de mécontentement, difficile à gérer. La prudence exige qu'on ne sélectionne pas si on n'a pas des portes de sortie à offrir aux gens qu'on a sélectionnés. Donc, il faut développer l'enseignement technique. Alors, l'enseignement technique se développe en effet très fortement. Il se développe dans le supérieur avec la création des IUT qui est justement faite en janvier 1966 et les premières sections d'IUT ouvrent à la rentrée 1966. Et en dessous, il se développe parce qu'on va, dans cette perspective de sélection-orientation, on va spécialiser les études universitaires et par voie de conséquence spécialiser le second cycle, c'est-à-dire les lycées. Donc, en 1965, on réforme les baccalauréats. C'est là qu'on crée le baccalauréat B, avec l'apparition dans le secondaire d'une culture économique et sociale, de sciences économiques et sociales, qui fait beaucoup causer et où certains voient la mort des humanités et d'autres l'émergence d'humanités nouvelles, avec A, latin grec, B, sciences économiques et sociales, C, maths physique, D, sciences de la vie et de la nature. Et puis E, une filière technique. Et en 1966, c'est la grande réforme du supérieur, les décrets du 22 juin 1966. C'est une réforme qui a été négociée par Fouché. Il a réuni un groupe de grands universitaires. Et il a suivi leurs avis, ce qui fait dire à Raymond Aron dans le Figaro du 17 mars que c'est le titre même d'une série d'articles de Aron sur cette réforme, « Victoire des conservateurs ». Il y a trois cycles. Un premier cycle sanctionné par un diplôme universitaire d'études littéraires, juridiques ou scientifiques. Il y a un second cycle avec une licence et une maîtrise. Et puis il y a un troisième cycle. Mais le second, avant, il y avait propédeutique, qui était une orientation générale, et puis après, il y avait la licence. Donc cette organisation, elle va permettre l'émancipation de la sociologie et de la psychologie. L'économie s'était émancipée depuis une réforme de 1959. Mais la scolarité est très définie avec des volumes horaires par section qui sont impératifs. Les examens sont définis avec le nombre d'épreuves, la durée des épreuves et les coefficients, et avec même des épreuves de langue vivante, alors que personne n'a été capable d'enseigner les langues vivantes pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de professeurs capables de les enseigner dans les départements de sociologie ou d'histoire. Et dans cette réforme, il n'y a rien sur les structures. Donc voilà, on est en marche vers le système actuel. On est en marche vers le système actuel avec une extraordinaire vitalité. Alors je me suis interrogé en me disant, est-ce que ce n'est pas que tu vieillis et que, comme tous les vieux, tu crois que c'était mieux quand tu étais jeune? Objectivement, je ne pense pas, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas des souvenirs, c'est des réalités. La vitalité du ministère est absolument prodigieuse. Le ministère va réussir. Alors, j'ai dépouillé les archives de la direction des constructions. Ils ont réussi à donner des ordres de service pour construire des collèges en février et inaugurer les collèges à la rentrée, en respectant les marchés publics, les procédures de permis de construire, les procédures administratives de propriété des terrains pour dégager les prêts du crédit foncier, etc., etc. Une sorte de, comment dirais-je, d'enchevêtrement administratif dont ils sont sortis avec une limpidité, et vous les voyez, parce qu'il y a des contraintes budgétaires, le budget ne se... Donc, au 15 février, ils envoient un ordre de service au préfet, les dossiers ont été préparés 6 mois à l'avance, les architectes ont été désignés, les entreprises ont été choisies. Le résultat, c'est que en 1964, ils construisent 51 établissements, 36 000 places. En 1965, 70 établissements, 43 000 places. En 1966, 156 établissements, 97 000 places. En 1967, 242 établissements en 365 jours. Soit 134 700 places. Et en 68, 298 établissements, ce sont ces collèges industrialisés qui ont été bien atteints par le collège Payron et son incendie en 1973, car au lieu de poser la question embarrassante « Pourquoi ce collège a-t-il brûlé ?», on a posé la question « Pourquoi ce collège a-t-il brûlé si vite ?», ce qui a permis d'accuser les industriels et de passer sous silence un certain temps le fait que c'était des élèves du collège qui avaient mis le feu. Ce qui est quand même un des signes précurseurs de la montée de la violence scolaire, qui, à mon avis, est un sous-produit de la réforme des années gaulliennes. Mais bon, c'est un autre sujet. Vitalité du ministère en ce qui concerne les disciplines, en ce qui concerne l'organisation pédagogique. C'est la commission Lichnerowitz qui est décidée en 68, 66 et qui va complètement bouleverser l'enseignement des mathématiques avec ce qu'on va appeler les mathématiques modernes. C'est la commission Rouchette qui travaille sur l'enseignement du français à l'école primaire, qui travaille depuis plusieurs années, mais en 1966, on demande à l'inspecteur Legrand, dont j'aurai l'occasion de reparler, Louis Legrand, de rédiger de nouvelles instructions pour l'enseignement du français à l'école élémentaire. C'est l'expérimentation de ce qu'on appelle le tiers-temps pédagogique qui va être adopté en 69-70, c'est-à-dire le matin, les disciplines de base fondamentales, et l'après-midi, un tiers de temps, 5 heures d'éducation physique et sportive et 5 heures d'activité d'éveil. C'est la découverte, et c'est la seule fois, il y a eu une esquisse au temps de Jean Zay en 1937, mais c'est la seule fois où l'éducation, où le ministère de l'Éducation nationale a dit « j'ai besoin de recherche pour faire mes réformes ». Le ministère s'est dit « mais la réforme du français, la réforme des mathématiques, c'est quand même très gros, peut-être qu'il serait bon de faire des recherches avant de généraliser ». Mais c'est une idée absolument, il faut la souligner, parce que personne, je n'ai jamais entendu aucun ministre dire la même chose, ni après, ni avant, quels que soient les bords politiques. Et ils s'en sont donné les moyens, ils ont nommé à l'Institut pédagogique national, qui n'était pas encore l'Institut national de recherche pédagogique, il y avait un département de la recherche où il y avait 3 personnes, dont un chef de service qui était en train de mourir d'un cancer. Ils ont nommé Louis Legrand et ils lui ont donné les moyens. J'ai vu le programme de recherche de Legrand en 67, c'est 150 pages renéotypées avec tous les établissements, les réseaux où on va tester. Bon. Naturellement, les ministres changent et les ministres sont pressés. On va décider de généraliser les programmes de mathématiques modernes avant la fin des expérimentations qui vont faire ressortir d'ailleurs ce que l'expérimentation grandeur nature va ensuite révéler. Et on serait donc à éviter quelques méconvenus si on avait été moins pressé. Le monde syndical est lui aussi en effervescence. Pourquoi ? Bon, alors vous avez le SGEN qui se singularise par des propositions pédagogiques telles que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des instituts universitaires de pédagogie puisqu'on fait des instituts universitaires de technologie ? Après tout, le métier d'enseignant, ça peut s'apprendre de la même façon que les métiers de technicien ou d'ingénieur. Donc, on pourrait faire des instituts universitaires de pédagogie. Donc, un certain nombre de propositions minoritaires. Du côté de la Fédération d'éducation nationale, il y a deux choses qui se passent. Il y a la montée des collèges d'enseignement secondaire qui commence à inquiéter un peu le SNI. Et le SNI va prendre le contrôle de la Fédération d'éducation nationale par une révolution de palais qui change le secrétaire fédéral, qui était un homme du technique, pour le remplacer par quelqu'un qui vient du primaire. Et puis c'est aussi le moment où les deux syndicats du second degré vont fusionner. Le syndicat national de l'enseignement secondaire et le syndicat national de l'enseignement technique fusionnent pour créer ce qu'ils appellent à l'époque le grand SNES. Et ça, c'est une conséquence d'une mesure qui s'est produite un peu avant, en 63, où on a fusionné les lycées généraux et les lycées technologiques. Le monde de la formation dans les entreprises est lui aussi en pleine effervescence. C'est le développement de la formation permanente et notamment de la formation de l'encadrement à de nouvelles méthodes de leadership. C'est l'époque où dans les entreprises, la mode est d'envoyer les cadres en T-groupe, training group. C'est une intervention psychotechnique un peu rude, car entièrement non directive. Vous avez une version plus soft, si vous me permettez cet anglicisme, c'est la semi-directivité de Carl Rogers. Carl Rogers qui tient en janvier 1966 à Dourdan un séminaire de formation où il y a beaucoup de monde. C'est la loi de décembre 1966 sur la formation professionnelle qui est une loi qui dégage les financements de l'État pour la formation professionnelle et la promotion sociale dans les entreprises, en dégageant deux niveaux de formation, formation supérieure et l'autre, et qui, dans certains cas, par exemple à Grenoble, va connaître un succès absolument considérable. Et je dois dire que le monde de l'éducation nationale est largement extérieur à tout ce qui se fait dans les entreprises, n'y participe pas, mais il y a un certain nombre d'enseignants, de professeurs qui sont fascinés par ces nouvelles méthodes d'enseignement et qui vont faire des stages à la CEGOS, à la RIP ou dans des différentes officines où ce type de formation se met en place. Et puis enfin, il y a ce que j'appellerais la société civile. La société civile, vous avez une association dont il faut parler, surtout dans ces lieux, parce que vous disiez tout à l'heure que vous ne saviez pas où était le Collège de France à cette époque, mais moi je sais où était son administrateur, M. Marcel Bataillon. M. Marcel Bataillon, il présidait une association qui s'appelle Défense de la Jeunesse Scolaire, qui est une association qui, à cette époque, a 3000 membres. Le secrétaire de l'association et son fondateur véritable est François Walter, qui est conseiller maître à la Cour des comptes. François Walter, sous le nom de Pierre Jérôme, a été l'animateur du comité de vigilance des intellectuels antifascistes en 1934. François Walter a des propositions. Et vous avez le Triumvirat, qui va d'ailleurs publier l'année suivante, en 1967, un livre intitulé « Rebâtir l'école ». C'est Bataillon, Walter, et puis le docteur André Berge, qui est un spécialiste de pédiatrie et qui est très très investi dans l'école des parents et tous les réseaux médiatiques. Comment élever mon enfant, vous pouvez demander au docteur André Berge, il vous dira. Alors si vous regardez le comité de patronage de défense de la jeunesse scolaire, vous avez Monsieur Maroux de l'Institut, M. Gustave Monod, directeur général honoraire du ministère, Guéhenot, le prince Ringuet, Jean Rostand, Jacques Monod, Laurent Schwartz, René Thom, François Pérou, André Pézard, professeur ici d'italien, Debès, Holmer, Laugier, toute une série de doyens. Et puis, le docteur Douadi de l'Académie de médecine, vraiment, pour mobiliser ces gens, il faut quand même se donner de la peine. Et je peux vous dire que les lettres de défense de la jeunesse scolaire, on les trouve dans les dossiers de Matignon. C'est un groupe de pression, c'est un lobby tout à fait reconnu, estimé. Vous avez une autre association tout à fait importante, qui est l'Association d'études pour l'expansion de la recherche scientifique, la EERS, qui s'est constituée autour de Mendès France à l'issue du premier colloque de Caen en 1956 et qui a pour secrétaire et cheville ouvrière Jean-Louis Crémieux-Briac, mieux connu aujourd'hui comme historien de la France libre et de la période de 1940, mais à l'époque, il est directeur adjoint de la documentation française, ce qui est une base très commode pour diffuser des papiers et organiser des réunions. Et Crémieux-Briac, qui a été au cabinet de Mendès France, qui a été au cabinet de Bière, il connaît tout le monde. Et vous avez une sorte de réseau scientifique, gaulliste, mendéciste, dans l'Association d'études pour l'expansion de la recherche scientifique, avec des noms très importants. Vous avez Lichnerowitz, qu'on retrouve, qui est professeur ici. Vous avez Monod, qui ne l'est pas encore. Vous avez Aigrin, qui deviendra bientôt directeur des enseignements supérieurs. Vous avez Coulon, le directeur du CNRS. Vous avez des patrons, des grands patrons, les Charbonnages de France, etc., la CSF. Et puis vous avez des journalistes. Vous avez Bertrand Giraudelin, qui est le chroniqueur du Monde. Et ce sont ces gens-là qui font le colloque de Caen dont vous parliez tout à l'heure. Alors, le colloque de Caen, j'y étais, j'étais tout gamin, hein, donc je n'ouvrais pas la bouche, je regardais, et c'était absolument impressionnant de voir ensemble discuter Monod, Lichner, Et quelques autres, en bras de chemise, à l'époque, on était très coincés. Eux, ils étaient sans cravate. Et ils discutaient vraiment. Et ils ont fait un projet qui était, on réorganise toute l'université avec des départements d'enseignement et des instituts d'enseignement et des départements de recherche. C'est-à-dire une structure croisée avec une structure de recherche et une structure d'enseignement. Et c'est une structure que, naturellement, le ministre qui vient inaugurer le colloque n'a pas retenu. Il dit qu'il va étudier la réforme des structures de l'université. Je pense que les événements de 68 tiennent beaucoup au dynamisme des étudiants dont je n'ai pas le temps de parler, mais aussi au fait que la réforme de 66 de l'enseignement supérieur, un, n'a pas touché aux structures, ce qui faisait que l'université était ingouvernable dans les structures faites pour une poignée d'étudiants, et deux, a fait un carcan d'horaires et de contraintes et de spécialisations qui était absolument ingérable. Bon. Enfin, vous avez, il faut que je m'arrête, vous avez la presse, l'opinion publique. C'est une époque où, dans l'opinion publique, le débat sur l'éducation est un grand débat. Vous avez des premières qui sont au Figaro, au Monde, dans Combat. Vous avez des premières qui sont entièrement occupées par les affaires d'éducation. Vous avez de grands journalistes, c'est-à-dire des journalistes dont l'ambition de carrière n'est pas de passer de la rubrique éducation à la rubrique politique, mais qui sont à l'aise dans la rubrique éducation, qui d'ailleurs vont publier des bouquins. L'un au Monde, c'est Giraudelin. Au Figaro, il y a Jean Papillon, qui fait aussi quelques ouvrages intéressants. Et vous en avez dans tous les journaux, vous avez un vrai chroniqueur des questions d'éducation que vous pouvez chercher aujourd'hui dans la presse du matin et parfois même du soir. Et vous avez des débats au Parlement. Quand on discute au Parlement de la réforme de l'enseignement, le Premier ministre vient, le ministre Fouché, naturellement, il est là, il défend sa réforme, mais le Premier ministre est là, il le soutient, c'est des débats qui durent parfois trois jours de débats, c'est en 65, trois jours de débats sur l'éducation nationale. Donc vous avez quelque chose qui est vivant, qui bouge, qui fait partie en quelque sorte de l'ère du temps. Et là-dedans, vous avez aussi la télévision. Et c'est là-dessus que je voudrais finir. Je vais finir sur la conférence de presse de Monsieur Fouché face à trois journalistes dans une émission dont j'ai oublié, c'est la première d'une série qui a fait suite à celle que vous disiez tout à l'heure et qui s'appelle La Vérité ou... Je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Il est avec trois journalistes dont Giraudelin. Et sur la fin de l'émission, je la regardais à la télévision. Je dois dire que j'ai été bluffé parce qu'à l'époque, on ne faisait pas tout un discours sur le journalisme à l'américaine, mais il arrivait parfois qu'un journaliste pratique sans le savoir du journalisme à l'américaine, c'est-à-dire de façon un peu directe. Comment expliquez-vous, pose Giraudelin, tout benoîtement à la fin? Ça, c'est en train de se terminer, ça tourne bien, c'est intéressant, mais sans plus. Comment expliquez-vous que, malgré tous les efforts que fait le gouvernement, tant de membres du gouvernement, la plupart des ministres qui ont des enfants d'âge scolaire, confient leurs enfants à l'enseignement privé et non à l'enseignement public, ce qui est votre cas? Et alors, Fouché est admirable parce que il faut quand même encaisser ce type de questions. Voilà la réponse d'après le script. J'ai pas vu l'émission et je ne sais pas si le script n'a pas été un peu modifié. Mais voilà ce qu'il répond. C'est en effet mon cas. Je ne vois pas en quoi cela peut choquer qui que ce soit. Le fait de mettre son enfant dans un établissement sous contrat d'association avec l'État, dont les professeurs, qui sont d'ailleurs fort qualifiés, sont payés par l'État, et que les inspecteurs généraux de l'éducation nationale inspectent régulièrement. Je dois dire d'ailleurs, Monsieur Giraudelin, puisque vous me posez cette question, qui me surprend venant de vous, qu'il s'agit d'un fait personnel qui concerne ma femme et moi-même, un fait bien connu depuis 4 ans que je suis ministre de l'Éducation nationale et dont personne, par discrétion, dans les organisations professionnelles et syndicales, n'avait jusqu'ici voulu me parler. Si Giraudelin avait voulu poursuivre, il aurait pu lui dire que si les ouvriers de Renault voyaient leur patron arriver avec une déesse, il se poserait quand même quelques questions. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a reçu beaucoup de lettres de félicitations de la part de l'enseignement libre. Et d'une certaine façon, c'est... L'enseignement libre s'est senti légitimé du fait qu'un ministre lui confie et qu'il l'assume publiquement. Et naturellement, l'autre camp a été scandalisé. Je termine là-dessus parce que je dois vous dire qu'après avoir quand même un peu travaillé sur cette question, je ne sais toujours pas qui est M. Fouché. Il y a des ministres, si vous me demandez qui est Jean Zay, si vous me demandez qui est Édouard Herriot, si vous me demandez à la rigueur qui est Alexandre Ribot au début du siècle, je peux vous dire. Chevènement, je peux vous dire. Savary, je peux vous dire. Descends. Bon, c'est plus facile, ce n'est pas de la reconstruction historique. Fouché, il y a des gens qui le prennent pour un imbécile. Dans les blagues qui circulent à l'époque à son sujet, on dit que c'est un char d'assaut avec un moteur de 2 chevaux, ce qui n'est pas vraiment gentil. Georges Suffert, dans un texte que je ne vous lis pas parce qu'il est trop tard, dit que oui, il a prouvé qu'il était bon pour être ministre des anciens combattants, ce qui n'est pas gentil pour les anciens combattants. D'autre part, il est clair que l'Élysée n'est pas content de Fouché, comme l'atteste, et non pas en atteste, comme l'atteste la nomination de Pierre Laurent comme secrétaire général du ministère en 1964. On ne veut pas renvoyer Fouché, mais on trouve que Fouché ne fait pas le boulot, et donc on lui nomme un espèce de coadjuteur dont on attend beaucoup. D'autre part, je vois Fouché faire son métier. Honnêtement, c'est un des rares ministres que j'ai vu, enfin je ne l'ai pas vu parce que je ne siégeais pas dans ces commissions, mais je l'ai vu dans les papiers, dans les comptes rendus des rapports, que j'ai vu assister aux commissions qu'il nommait. Lichnerowitz, que j'avais interviewé, m'a dit le ministre est venu aux réunions de ma commission. Je me suis dit en moi-même, qu'est-ce qu'il a dû s'ennuyer? Parce que les matheux, ce n'est pas toujours des drôles. Ça l'est parfois. Mais et j'ai vu dans la commission qui a mis en place la réforme de 66, ce Fouché est là le matin, il préside, il est là l'après-midi, il préside, il les invite à dîner le soir et il préside après dîner. Il est vraiment actif, il fait son métier sérieusement. Et il n'était pas malthusien. Il était pour une croissance. Mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Et d'autre part, dans la majorité, il y a des gens qui pensent à lui comme successeur possible de De Gaulle. Ce qui est quand même lui faire un grand compliment. Et vous savez qu'il va être ministre de l'Intérieur en 68. Et je peux dire qu'on a eu de la chance d'avoir un ministre de l'Intérieur en 68 qui avait d'abord été ministre de l'Éducation nationale. Ça lui avait permis de ne pas confondre tout à fait le SNESUP, l'affaire et les trotskistes. Bon. Donc, mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Voilà un homme qui a complètement transformer notre système éducatif, je suis incapable de vous dire ce qu'il pensait. Comme quoi, contrairement à ce que les gens croient, la vérité n'est pas toujours dans les archives. Il arrive que les archives ne disent rien. Merci.